Chapitre 27. Cam Fiu Zo Yak. L'albatros était enfin sorti du piège de l'estuaire. Une forte marée et un vent de mer l'avaient poussé. Il remontait depuis quelques jours le fleuve, lentement, toute voile déployée. Brasa à la barre maîtrisait de mieux en mieux le pilotage du voilier, et les marins étaient maintenant experts en hissage, empannage, virement de bord et autres manœuvres complexes. Tous se prenaient au jeu de la navigation, y compris les soldats, Novak, Helios, Clark ou Noeli, qui n'avaient rien d'autre à faire à part tirer sur les mouettes à coups d'arbalète. Mais Agnel les aurait jetés par-dessus bord s'ils avaient essayé. L'albatros filait à bon rythme, on serait quai du point du jour avant la veillée du sanctuaire. Un matin, au réveil, après s'être amarré près d'un chemin de halage envahi d'herbe où broutait un troupeau de chevaux sauvages, ils découvrirent la vallée entièrement blanche. La neige était tombée pendant la nuit. Le drapeau du grand cerf en était raide de givre. Helios commença même à paniquer, imaginant que le fleuve était gelé et qu'il resterait coincé. Osman, carte et bilan météo à la main, les rassura. Il allait faire froid, très froid sur l'Albatros, mais on ne croiserait pas d'iceberg sur la Seine. Désormais, en dehors des gabiers qui se relayaient à tour de rôle pour surveiller les voiles sur le pont, presque tous les marins restaient enfermés dans les cales. Ils se serraient les uns contre les autres pour se réchauffer, et trouvaient le temps très long. Pas Agnel, et encore moins Solario. Solario passait toutes ses journées dans la cabine de Pou, à essayer de communiquer avec lui. Agnel les rejoignait le plus souvent, même s'il ne parvenait pas à rester plus d'une heure dans la cale. Il finissait toujours par avoir envie de rejoindre les oiseaux qu'il observait par les hublots, et filait alors grimper jusqu'à la hune, y compris les matins de givre ou les soirs de glace. Il n'en redescendait que quand ses mains et ses pieds étaient gelés. Solario ne trouvait jamais le temps long avec Pou. Plus il passait du temps avec lui, plus il découvrait des dons insoupçonnés chez l'enfant prématuré. Ses sens, par exemple, étaient bien plus développés que ceux d'un enfant ordinaire, l'ouïe et l'odorat en particulier. Pou percevait des sons très lointains, un craquement de plancher à l'autre bout du voilier, un mât qui grinçait alors que la porte de sa cabine était fermée, ou même un caquettement de poules au fond de la cale où elles étaient enfermées. Quant à l'odorat, ils avaient reproduit l'expérience de lui apporter dans sa cabine ses plats préférés, tout ce qui était à base de lait et d'œufs, fromage, yaourt, soupe, crème, crêpe, ou ceux, au contraire, qu'il détestait, viande séchée, poisson, plantes telles que l'oseille ou l'ail. Son visage affichait soit un sourire, soit une grimace, avant même que le marin, lui apportant son plateau repas, ait ouvert la trappe de la cale. Et surtout, Pou faisait des progrès pour parler. Leonarda avait rempli un carnet de croquis. Sur la première page, elle avait dessiné un portrait de Pou. Désormais, l'enfant de la ferme se reconnaissait. « Pou, Pou !» disait-il quand on lui montrait son image. Sur la page suivante du carnet, Leonarda avait griffonné des hérons, des mouettes, un pélican.
« Zo ! Zo !»
annonçait Pou avec un grand sourire aux lèvres.
« Ouah ! Ouah !»
répétait-il quand on lui montrait un chien. Il reconnaissait ainsi une petite dizaine d'animaux et utilisait à peu près autant de syllabes pour s'en sortir dans sa vie quotidienne. « Bah !» c'était tout ce qui se buvait, du lait, de l'eau. L'eau dans un verre, pas l'eau du fleuve. Pou n'avait pas l'air de comprendre qu'il s'agissait de la même chose. L'eau du fleuve, celle qui faisait bouger le bateau, c'était « ro ». Dormir, c'était « dio ». Pou était très vite fatigué. Il dormait aussi bien la nuit que pendant la journée, comme un chat, alternant de longues siestes et de brefs réveils. À force de patience et d'écoute, Solario était allé plus loin. Il avait appris comment Pou exprimait certaines émotions, autrement que par des gestes ou les expressions de son visage. Ainsi, Pou répétait souvent « fiu » ou « cam » sans que cela corresponde à aucune image ou à aucun objet. Solario avait fini par comprendre que Pou utilisait le mot « fiu » quand il était fatigué, ou que le ciel était gris, ou quand quelqu'un poussait un cri, même lointain. Fu devait donc signifier quelque chose comme chagrin, triste, malheureux. À l'inverse, le matin, quand Pou avait mangé, que le soleil brûlait à travers les hublots, ou qu'il voyait un zo, son mot préféré était « cam ». Un mot sans doute intraduisible, mais qui devait être un mélange de « je suis heureux, je vais bien, j'ai le ventre plein ». Parfois même, après avoir bu un grand bol de lait framboise, tout en regardant les oiseaux voler au-dessus des voiles dans le ciel blanc, un grand sourire s'affichait sur la tête ronde de Pou, et il criait « cam, cam ! Je suis très, très heureux, je suis bien, bien ». Jamais encore Pou n'avait été « cam, cam, cam », mais ça viendrait, Solario en était persuadé. Il avait le temps. Plus les jours raccourcissaient, plus les escales pendant la nuit s'allongeaient. Braza naviguait de plus en plus prudemment. La brume matinale mettait souvent plusieurs heures à se lever. Des morceaux de branches cassées par le givre et le froid dérivaient sur le fleuve. Ses doigts eux-mêmes s'engourdissaient au bout de quelques heures de pilotage, mais ils ne voulaient laisser la barre à personne d'autre. Osman traçait leur trajet sur une carte. Ils avaient remonté les trois quarts du fleuve jusqu'à Paris, mais leur rythme s'était beaucoup ralenti. Il était pessimiste. Il était peu probable qu'ils puissent accoster quai du Point du Jour avant la veillée du sanctuaire, à moins de continuer de naviguer à la nuit tombée. Trop dangereux. La lenteur de la navigation rendait les marins mélancoliques. « Fiu, fiu, fiu !» aurait dit Pou. La neige tombait tous les jours maintenant. Le froid devenait presque insupportable. Seuls les feux qu'ils allumaient le soir sur les rives du fleuve quand ils amarraient l'albatros les réchauffaient. « On n'arrivera jamais !» commençait à se lamenter Clark, Solveig ou Cléa. C'était comme si le temps s'était mis à ralentir, les heures, les minutes, les secondes, à tourner moins vite. Ils n'avaient qu'à demander à Pou de vérifier. Quand ils ne dormaient pas, quand ils ne travaillaient pas avec Solario, quand ils ne se laissaient pas distraire par les eaux derrière le hublot, l'enfant prématuré restait les yeux fixés sur la trotteuse de sa montre qui ne quittait jamais son point. « Yak !» C'était la syllabe qui désignait son trésor le plus précieux. Ce matin-là, tout le monde dormait encore sur le bateau. Le feu dressé la veille sur la petite plage de sable et de gravier s'était doucement éteint. Il n'en restait que des braises qui serviraient à réchauffer le lait pour le petit déjeuner. De longues larmes de glace, prises au piège par le froid, se suspendaient aux branches des saules pleureurs. La brume flottait au-dessus du fleuve, comme des draps transparents de fantômes partis plonger sous l'eau noire. Tout était calme ce matin-là quand un cri déchira l'aube endormie. Solario. Il se leva de son lit en sueur, tremblant de peur, et se précipita vers le hublot. Agnel, qui dormait au-dessus de lui, se réveilla en sursaut.
« Lunella !»
hurla-t-il.
« Elle est en danger ! Un danger terrible ! Elle et tous les autres ados du château !»